Eh bien, shalom, lekoulam, boker tov, shavua tov, lekoulam. Et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons diviser notre cours en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, nous allons parler des... Hein? Ok.
Non, c'est une discussion qu'on a eue avant, rien à voir, vous inquiétez pas.
Ok. Donc, on va séparer notre cours en deux parties. La première partie, on va donc continuer notre historique de la Kabbalah et on fait notre ping-pong entre Ashkenaz et Sepharad, comme on a l'habitude de le faire. Et la deuxième partie sera en fait le moment où on aura terminé, on sera arrivé au 15e siècle. Et à ce moment-là, eh bien, on va commencer à s'intéresser à... Alors, vous allez me dire, on fait ça tout le temps, à des personnages particuliers, mais parce qu'ils ont écrit un livre particulier qui va commencer à servir de référence au niveau de l'enseignement de la Kabbalah. D'accord ? Donc, on va y aller doucement, doucement. Et pour ouvrir notre session ce matin, je voudrais parler eh bien, de cette chose qui est l'essentiel du judaïsme, la chose la plus importante du judaïsme, à savoir... Est-ce qu'il faut attendre 6 heures ou 3 heures entre la viande et le lait ? Voilà, c'est la question la plus importante du judaïsme. Des gens sont morts pour cette question-là. Eh bien, en fait, bon, d'abord, vous savez tous que... Voilà, non, alors, ce n'est pas les Belges d'une heure, c'est les Hollandais. C'est les Juifs de Hollande. Et en vrai, il n'y a nulle part marqué ni une heure, ni 6 heures, ni 3 heures. En vérité, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et donc, qu'est-ce qui s'appelle ne pas mélanger ? Eh bien, dans le Talmud, on va dire qu'il faut attendre entre les repas. Voilà, tu fais un repas de viande et tu ne peux pas faire dans le même repas un repas de lait. Et tu fais un repas de lait, ben, tu ne fais pas dans le même repas un repas de viande. Et la question est de savoir qu'est-ce qui s'appelle attendre entre les repas ? Certains diront, bah, c'est une heure, parce que, en fait, c'est le temps où j'ai concrètement fini mon repas, ça y est. Ou alors, c'est 6 heures, parce que c'est le temps qu'il y a entre deux repas, puisque à l'époque, on attendait 6 heures entre les repas. Aujourd'hui, les gens qui mangent, qui attendent 3 heures, c'est en fait une roumra de 1 heure. C'est basé sur rien. C'est un minag qui s'est développé. Que 1 heure, ça leur paraissait un petit peu trop juste, et donc ils se sont mis à attendre 2 heures de plus, et yallah. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport entre ça et notre étude à nous ? Eh bien, parce que parmi ceux qui attendent 3 heures, on va retrouver principalement des Ashkénazes, puisque c'est une tradition qui s'est développée en Ashkénazie. Puisque c'était en fait une khumra de 1 heure et que les 1 heure, c'était plus en Europe occidentale. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les vestiges de ça, c'est les Hollandais. Et donc, c'est en Ashkenaz. Alors, comment ça se fait qu'il y a des Marocains qui attendent 3 heures ? Eh oui ! Comment ça se fait qu'il y a des Marocains qui attendent 3 heures ? Et comment ça se fait qu'il y a des Marocains qui ont, eh bien, pas mal de... Minagim, qui sont... Ah, les Algériens aussi, bah, très bien, alors tu sais quoi, la Briout. Et comment ça se fait donc qu'il y a des Marocains, Algériens, qui ont des Minagim qui leur provient directement du monde Ashkenaz ? C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc comment cela se fait-il ? Eh bien, les amis, c'est ce qui nous amène sur notre personnage. Rappelez-vous, alors, ce n'était pas la semaine dernière, c'était avant, quand on avait parlé des Ashkenazim. À un moment donné, on avait parlé du Maharam de Rothenburg. Vous vous rappelez de lui ? Eh bien, le Maharam de Rothenburg va être, comme on l'avait expliqué, capturé, va être mis en prison. Et au final, il va dire qu'on n'a pas le droit de racheter sa liberté parce que les goyim, sinon, ils vont penser que c'est un bon filon de capturer un grand rabbin juif, et comme ça, on peut se faire un petit pactole. Résultat des courses. Eh bien, lorsque finalement le Maharam va mourir en prison, et qu'on va quand même racheter sa dépouille pour pouvoir l'enterrer comme un juif, eh bien, arrive son grand élève, qui est né donc en Allemagne de l'époque, qui est le fils de Rabbi Yehiel ben Uri, qui se dit, mais si maintenant, moi, je suis l'élève du Maharam de Rothenburg, donc ça veut dire que je vais devenir le nouveau chef des Juifs de cette région, bah, il risque de m'arriver exactement pareil que ce qui est arrivé à mon maître. Donc, je n'ai pas vraiment envie. Résultat des courses, eh bien, je m'enfuis. Et il va s'en aller. Il va s'en aller et il va partir tout d'abord en Espagne. Et de là, il partira également, eh bien, en Afrique du Nord. Quand il va arriver en Espagne, eh bien, il va être accueilli, entre autres, par le Rashba, on en a parlé la semaine dernière, et c'est là qu'il va commencer à goûter à Torah ta Kabbalah. Parce que c'est un homme qui est beaucoup connu au niveau de la halakha, et sa tfissa ilkhatit, sa réflexion halakhique, il l'a eu en Allemagne, c'est-à-dire en Ashkenaz de l'époque, mais c'est lorsqu'il va rencontrer le Rashba, eh bien, qu'il va commencer à s'ouvrir à Torah ta Kabbalah, et sur la fin de sa vie, eh bien, il sera complètement en plein dedans. De qui suis-je en train de parler ? Je parle de Rabbeinu Asher be Rabbi Yehiel. Rabbi Asher be Rabbi Yehiel. Mise Rabbi Asher be Rabbi Yehiel. Rabbeinu Arosh. Rabbeinu Arosh. Le Roche, comme on dit chez nous. Rabbeinu Asher be Rabbi Yehiel. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Bon, bah, au niveau de la halakha, il n'y a pas débat. Au niveau de la halakha, il est tout simplement un des commentateurs les plus farouches de la halakha. D'ailleurs, là où il va être très virulent, le Rabbeinu Arosh, Rabbeinu Asher be Rabbi Yehiel, il va être très virulent contre ce que les gens font du Yad HaChazaka du Rambam. Rabbeinu Asher, il naît en 1250, il mourra en 1327, ça veut dire qu'on est en plein milieu, la première moitié du XIVe siècle, et Rabbeinu Asher connaît à son époque, au moment où il devient rabbin influent, eh bien le Yad HaChazaka du Rambam s'est déjà énormément répandu. Et le problème, c'est que les gens font ce que le Rambam a marqué dedans, à savoir... Je vous rappelle pourquoi est-ce que le Rambam a écrit son Yad HaChazaka. Eh bien, c'est pour que tout le monde ait une base de halakha et qu'on n'ait plus besoin d'aller étudier le Talmud. Ah ! Et Rabbeinu Asher, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et il va être extrêmement critique par rapport à cette idée qu'on n'a plus besoin d'étudier le Talmud. Et donc, eh bien, de manière générale, ce sont les psakim du Rosh dans son commentaire du Talmud qui vont le rendre extrêmement connu. Pour lui, la halakha, elle ne s'apprend pas du Rambam, elle s'apprend directement de la Gemara. Donc ça, c'est au niveau halakhique. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rosh, il est actuel aujourd'hui, ses psakim sont actuels aujourd'hui dans la Taltala, dans l'ouragan médiatique et politique que nous avons aujourd'hui en Israël, puisque je vous rappelle que c'est quand même le Rosh, Rabbeinu Asher, dans son Klal Vav, dans son sixième grand principe, qui va nous expliquer que la démocratie, c'est Malchut. Ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la Malchut, elle était perçue comme... Eh bien, c'est un roi avec une couronne sur la tête. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu parles aux gens du Melech HaMashiach, et que tu leur dis, bah, il peut très bien être premier ministre ou président, et il pourra quand même être Mashiach, les gens, ils ont du mal à te... Oh, comment ça ? C'est pas un roi avec une couronne ? Tu peux lui mettre une couronne sur la tête. Mais la Malchut, eh bien, la démocratie rentre dans les critères de la Malchut, de la souveraineté, d'après la halakha. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État d'Israël a la possibilité de m'envoyer à la guerre. Pourquoi est-ce qu'elle a la possibilité de m'envoyer à la guerre ? Parce que c'est une malchoute. En tout cas, quoi qu'il en soit, lorsqu'il part et qu'il arrive en Espagne, il fait la rencontre du Rashba, et là, avant de partir finalement en Afrique du Nord, où il sera extrêmement bien reçu. Et la question est, mais comment ça se fait qu'il est bien reçu ? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'il arrive, il a avec lui un talisman. Il a avec lui, une caméa. Non, je plaisante. Il a tout simplement avec lui la lettre de recommandation du Rashba. Et le Rashba, il dit à tout le monde, celui-là, c'est un géant, c'est un grand, acceptez-le, faites de lui du kavod, ce que vous voulez. Il va même devenir Rosh Yeshiva de Tolède, avant de partir en Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, on est face à un monsieur qui va avoir une influence énorme également dans le monde séfarade et qui va nous donner sa shita à Kabbalite. Donc, Netanyahou est roi. Ah non, Netanyahou n'est pas roi. Netanyahou est le chef de la malchut, mais il n'est pas roi. Il y a une différence entre la malchut, la souveraineté, et le meler, le roi. Il y a certaines choses qui font qu'on ne peut pas dire de Netanyahou qu'il est roi. Par exemple, que ce n'est pas héréditaire. Il ne transmet pas son autorité à son fils de manière héréditaire. C'est-à-dire, par exemple, mais il y a d'autres choses qui font que, halakhiquement parlant, on ne peut pas parler de Netanyahou comme étant roi, mais il n'empêche qu'il est à la tête de la malchoute. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que quand tu vois Netanyahou, tu ne dois pas faire la bracha qu'on fait devant les rois. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, lorsque nous parlons du Rosh et de sa shita à Kabbalite, eh bien, c'est la shita Kabbalite de l'époque du XIVe siècle en Espagne. À savoir, comme on avait dit la semaine dernière, avec par exemple Rabbeinu Chisdai Kreskas, eh bien, il s'intègre complètement dans cette shita où on va mêler d'un côté les sciences du monde, de l'autre la philosophie, et trois, les compréhensions ésotériques de la Torah. Ceci étant, on a un problème avec le Rosh et la Kabbalah, c'est qu'il n'a rien écrit de Kabbalah. Alors, d'où est-ce qu'on reçoit ces enseignements kabbalistiques ? Eh bien, on les reçoit de son fils. Eh oui, c'est son fils qui va prendre sur lui d'être véritablement l'enseignant de la Kabbalah de son père. C'est qui son fils ? Mais lui encore, il est beaucoup plus connu pour son côté halakhique. Mais il va avoir également un pérouche, lui, pour le coup, qui est extrêmement alpi asod. Je parle de Rabbeinu Yaakov Berabbi Asher. Mise Rabbi Yaakov Berasher. Rabbi Yaakov Berabbi Asher, on le connaît sous le nom d'un de ses livres. Quel est son grand livre ? Eh bien, c'est le Arba Tourim. Bah, la Tourim, tout simplement. Oui, mais attention, là, on parle de Halakha. Oui, ce sont des rabbins qui vont être beaucoup plus connus au niveau de la Halakha, puisque le Baal HaTourim va faire quelque chose de très fort, puisqu'il va décider de réorganiser la Halakha selon quatre thématiques. Jusqu'à présent, quelles sont les thématiques pour étudier la Halakha ? Eh bien, vous avez soit la thématique du chasse, donc Shisha Sidre Mishnah, les six grands points du chasse, vous savez, Zman Nakat, c'est-à-dire le temps, les rapports à la terre, Zraim, le rapport au temps, Moed, le rapport aux femmes, Nashim, le rapport au litige entre les hommes, Nezikim, le rapport à la sainteté, Kodashim, et le rapport à la pureté, Taharot. Ok, ce sont les six points du chasse. Et puis après, on a eu la nouvelle version en 14 points du Rambam, dans son Yad Achazaka, Yad 14. Rabbeinu Yaakov, Berabbi Asher Baal HaTourim, lui, il va remasteriser la Halakha en quatre Amoudim, qui sont Orach Chaim, ok, Orach Chaim, c'est-à-dire le domaine de la vie quotidienne, Yore Dea. OK, Yore Dea. Choshen Mishpat. Yore Dea, c'est par rapport plus ou moins à Issur Veheter. Choshen Mishpat et Even Haezer. Ces quatre dimensions, vous les connaîtrez peut-être plus tard dans le suivi du Shulchan Aruch, puisque le Shulchan Aruch va suivre également cette séparation. En tout cas, Rabbeinu Yaakov Berabbi Asher est donc très connu pour sa trouma halachique. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, le Baal HaTurim, c'est très simple, il va prendre tous les enseignements halachiques de la culture ashkénaze jusqu'à son père et il les ordonne. D'accord ? C'est très facile. Alors, où est-ce qu'on voit que Rabbeinu Yaakov, c'est un Mekoubal ? Eh bien, en fait, il va se marier. Eh oui, Rabbi Yaakov, Berabbi Yechiel, Berabbi Asher, se marie. Et une fois qu'il se marie, eh bien, il y a son beau-père. Son beau-père, il a un peu son mot à dire. Et il dit, bon, mon coco, moi, je veux bien te donner ma fille et je veux bien aussi... Je veux bien aussi te payer, te financer la sortie de tes livres, mais j'ai une condition. Quelle est ma condition ? Eh bien, ma condition, elle est très simple. Je veux que tu n'écrives pas que des choses de halakha. Il y a une légende qui raconte qu'il a demandé d'écrire ça en une nuit, mais c'est une légende. En tout cas, il lui a dit, je ne veux pas que tu écrives que des choses de halakha. Alors, là, OK, alors je fais quoi ? Eh bien, Rabbeinu Yaakov Berabbi Asher va écrire un commentaire de la Torah. Et on appelle le Perush Baal HaTurim à la Torah. C'est un petit commentaire, mais lorsqu'on va prendre ce commentaire-là, eh bien c'est là qu'on va voir toute la Shita Kabbalite qui va d'ailleurs reprendre l'enseignement du Ramban dans son commentaire. Et donc le Baal HaTurim devient un incontournable. Pourquoi un incontournable ? Il va être énormément étudié parce qu'il est extrêmement concis. Comme il est extrêmement concis, comme c'est facile à étudier, il réussit à nous emmener dans le monde de la Kabbalah de manière extrêmement didactique, très facile et très rapide. Et c'est pour ça que son texte, son commentaire va être très populaire. D'ailleurs, il est imprimé dans toutes les éditions de Mikraot Gedolot, voire même où il n'y a que Rashi et un autre commentateur, eh bien, on va trouver en général le Baal HaTurim. Donc, alors vous allez me dire, oui, bah c'est normal, l'imprimeur, il a vu que c'était un petit commentaire, donc comme ça, c'est réglé. Nachon, vous avez raison, c'est des raisons pratiques. Mais il n'empêche que c'est ce qui va permettre au Baal HaTurim d'être extrêmement développé et d'être très connu. Maintenant, la parchanout du Baal HaTurim ne se limite pas à celle du Ramban. Il va également reprendre la parchanout de Rabbi Yosef Kimchi. Oui, c'est Rabbi Yosef Kimchi. Rabbi Yosef Kimchi était un des plus grands combattants contre l'ésotérisme de la Natsrout, du christianisme. Et donc Rabbi Yosef Kimchi est un rav qui va permettre de faire rentrer les enseignements ésotériques de la Torah en opposition avec ce qui se passe dans la culture globale. Voilà pourquoi Baal HaTurim va prendre une place aussi importante. Mais lorsqu'on parle des Mekoubalés Ashkenaz, du 14e et de la fin du 14e siècle, nous ne pouvons pas ne pas parler d'un homme qui est extrêmement peu connu. Extrêmement peu connu. Et pourtant, il va nous laisser un commentaire sur la Torah. Un commentaire sur la Torah qui est Kol Kulo Kabbalah. Et qui est très très peu connu. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est un commentaire qui vaut largement le détour. Il s'appelle Rabbi Menachem Tzion. Rabbi Menachem Tzion, Rabotai. Il vit de 1340 à 1410, donc on est vraiment au tout début du 15e. Il était sa consécration de toute la Shita de Chassidei Ashkenaz, des Paitanim, Ashkenazim, des Rishonim. Et il va écrire un petit livre, un commentaire de la Torah lui aussi, qui s'appelle Atziuni. Atziuni, c'est tout simplement des Perushim à la Torah, uniquement Alpi Torah Tanista. Il écrit dans l'introduction de son livre, Vetziuni karatiu galal kibahar, ken kibahar tzion limduni chassidim. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai appelé mon livre Tzioni, Atzioni, ou Atzioni, Tzioni, mais en fait Atzioni, on pourrait dire. Eh bien, il dit, parce que j'ai reçu tout cet enseignement que je suis en train de transmettre, je l'ai reçu de Massoret, Mehar Sinai. Non, Mehar Tzion. Il dit qu'il puise sa Torah du Beth Amikdash. C'est assez énorme. C'est-à-dire, le Chida, on parlera de lui dans quelques cours, mais Maran Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, eh bien, va nous expliquer dans son livre Shem HaGedolim que le livre Tzioni, qui a été écrit par Rabbi Menachem Tzioni, ou Alpi Asod, Veyesh Bochidushim Noraim, ou Bene Sifro al Azor, Veal Sefer Abahir. Aha! Aha! Tiens donc! Tiens donc! Sefer Abahir. Incroyable! Mais quel est donc ce livre? Eh bien, ce livre-là, qui sert de base au Tzioni, à Rabbi Menachem Tzioni, eh bien, il faut qu'on en parle un peu. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est justement à cette époque-là que le Sefer Abahir commence à être répandu et étudié. Mais quel est ce livre? Eh bien, c'est un des premiers livres de Kabbalah, après le Zohar, évidemment, qui va commencer à être énormément utilisé. D'abord en Provence, et c'est le Chachmé Provence, mais qui va se répandre un peu partout. Et c'est incroyable, Sefer Abahir, mais qui l'a écrit? Eh bien, on n'en sait rien. C'est assez incroyable. Certains veulent le rattacher à Rabbi Nechonia ben Akana. On avait déjà vu plusieurs choses qui étaient rattachées à lui. Tana, Rabbi Nechonia ben Akana, c'est Tana, c'est l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais on ne sait pas. C'est-à-dire que certains pensent qu'il est rattaché à Rabbi Nechonia ben Akana, mais ce n'est pas comme le Zohar, où on va te dire, non, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Là, on ne sait pas. Et on sait juste qu'au XIIIe siècle et au XIVe, eh bien, il commence à être répandu et à être étudié un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Mais les amis, Sefer Abahir, c'est un livre qui est écrit à la mode du Midrash, c'est-à-dire en plusieurs parties, en plusieurs ktaïm. Et il se base sur des psukim. Aha! On n'est plus sur, comme les domaines de Halakha, sur des sujets, mais sur des psukim. Dans la première partie, on parle des psukim qui expliquent Sipur HaBriya. On va avoir également une deuxième partie qui va nous parler du Aleph Bet, des lettres. Une troisième partie qui va nous parler des kolot, de la façon d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Une quatrième partie qui va nous parler des ktarim, vous savez, des couronnes qu'il y a sur le Sefer Torah. Et la dernière partie qui nous parle de Mistore HaNeshama, qui va nous parler de l'âme de la Neshama dans toute sa splendeur. Sefer Abahir. Et au même moment, arrive un autre bouquin. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Arrive un autre livre qui va, comment dire, un autre livre qui va se développer à ce moment-là et qu'on ne sait pas vraiment on ne peut pas vraiment dire s'il date de cette époque-là, il ne date pas de cette époque-là. C'est un livre qui est très particulier parce qu'il y en a, d'après ce qu'on décompte, il y en a six livres. Oula, voilà, j'ai juste vérifié parce que je n'étais pas sûr du chiffre. Il y a six bouquins qui ont le même livre, le même nom. De quoi on parle ? Je parle du Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, il y en a qui vont dire c'est un livre qui vient d'Abraham Avinu, il y en a qui vont dire c'est un livre qui vient des Tanaïm, il y en a qui vont dire c'est un livre qui vient des Géonim. Mais c'est à chaque fois des livres différents. Comment s'écrit Sefer HaBahir ? Eh bien, comme ça se prononce. Sefer HaBahir, c'est-à-dire Ha, Hey, Bet, Hey, Yud, Reish. Sefer HaBahir. Ok, c'est clair. C'est on le traduira par le livre clair. Ok ? Et après, donc, on a ce Sefer HaYashar. Alors, Sefer HaYashar, je vous dis, on ne parle pas du Sefer HaYashar qui est Meyuchas l'Avraham Avinu, mais on parle d'un Sefer HaYashar qui est un Sefer de Haggadot. Et la vérité, aujourd'hui, on peut le trouver un petit peu partout. On l'appelle, tu vas dans des librairies, tu peux le trouver sous le nom Midrash Sefer HaYashar. Gam Sham, ce n'est pas du tout clair qui l'a écrit, mais c'est Harry Potter. Ah, laisse tomber. Sefer HaYashar, si tu as envie de lire des histoires fantastiques à tes enfants, ce n'est pas la peine d'aller chercher chez J.K. Rowling. Ah, je t'assure qu'avec Sefer HaYashar, tu es servi. Par exemple, dans la guerre entre Abraham, vous savez, la guerre entre Abraham dans la parasha de Lech Lecha et les quatre rois babyloniens, alors là, le Sefer HaYashar, il se donne à cœur joie. Il te dit que lorsque Abraham il tirait des flèches, les flèches, elles se transformaient en boules de feu géantes. Et puis, il y avait aussi dans les armées d'Abraham qui sont venus l'aider des centaures. Pourquoi pas ? J'ai yé la brioute. Hein. Et c'est vraiment, voilà, c'est du fantastique. Il n'est pas du tout central dans la compréhension de la Torah. Sefer HaYashar, c'est plus, à mon sens, un livre pour les enfants. Même si, récemment, il a reçu un grand chizouk, puisque aujourd'hui, dans toutes les éditions qu'on peut acheter sur le Sefer HaYashar, eh bien, il y a la Haskama du Rav Kanievski, qui disait que c'est un Sefer Chashuv Meod Vekadosh Meod. Donc, bon, écoute, si le Rav Kanievski a dit c'est Chashuv Vekadosh, la malo. Mais tout ça nous permet d'arriver maintenant, puisque nous sommes arrivés au XVe siècle, comme nous étions arrivés au XVe siècle avec les Sfaradim, eh bien tout ça nous permet maintenant d'arriver sur les bouquins, sur les livres qui vont avoir maintenant une importance capitale dans l'enseignement de la Kabbalah. Alors évidemment, on ne va pas se concentrer que sur les livres, on va parler aussi des bonhommes, on va parler aussi des gens qui ont écrit ces livres-là, mais ça y est, on a changé de phase dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, puisqu'on arrive à partir du XVe siècle à un moment où la Kabbalah va énormément prendre sa place. Et je parle du XVe siècle alors que je vais parler d'un bouquin qui a été écrit 200 ans avant. Nachon. Il a été écrit 200 ans avant, mais il ne trouvera sa place dans la bibliothèque juive qu'à partir du XVe siècle. Et je parle ici du livre avec lequel, d'après le Rav Cherki, mais pas que d'après le Rav Cherki, en l'occurrence, d'après une grande majorité des Mekoubalim, c'est le livre avec lequel il faut commencer à étudier la Kabbalah. Moi, quand j'ai demandé personnellement au Rav Cherki par quel livre il faut commencer à étudier la Torah profonde, eh bien, il n'avait aucun doute et il m'a donné la raison de pourquoi. Je parle du livre de Rabbi Yosef Berabbi Avraham Jikatilia. qu'on connaît aussi sous le nom Mahari. Mahari, Rabbi Yosef Djikatilia. Misère Mahari Djikatilia, eh bien, il vit évidemment en Espagne, comme tous les autres, mais il va surtout écrire un livre qui est tout simplement fantastique, qui s'appelle Sha'arei Ora. Sha'arei Ora. Les portes de la lumière. Pourquoi est-ce que ce livre est fondamental? Pourquoi ce livre est fondamental? Eh bien, tout simplement parce que 85% du livre, ce sont des psukim du Tanakh. Or, rappelez-vous ce qu'on a évoqué au tout début de notre étude, que la Kabbalah, c'est les vestiges de la Névoie, les vestiges du Tanakh. Dans ce livre-là de Rabbi Yosef Djikatilia, eh bien, il te dit, tu veux comprendre la Kabbalah? Pas de problème, commence par le Tanakh. Et donc, je vais t'expliquer les fondements de la Kabbalah grâce aux versets du Tanakh. Donc, un, c'est un livre qui est en hébreu, ce qui n'est pas toujours évident, on a plein de livres qui sont en araméen. Au-delà de ça, c'est un hébreu qui est compréhensible. Et troisièmement, c'est un hébreu qui nous rattache directement au Tanakh. Et c'est pour ça qu'il est central et fondamental et premier. Parce que tu étudies le Tanakh, donc tu peux comprendre le livre Sha'arei Ora. Et je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples de ce Sha'arei Ora. Qu'est-ce que va nous dire qu'est-ce qu'on peut apprendre plus ou moins de ce livre-là? Regardez, je vous donne quelques exemples. Nous écrit Rabbeinu Yosef Djikatilia. Dalecha. Shechem Avaya ou Hashem Amore Veameid al Amitato Yidbarach. Veushem Echad Levad Asher Meid al Avayato Vekadmuto Yidbarach. Vemare al Eyoto Nivdal Mikol Tzad Aregesh Chomer Veatsura. Nous dit Rabbeinu Yosef Djikatilia, le nom de Dieu, le tétragramme, eh bien, c'est un nom qui, d'un côté, ramène à la vérité du Créateur, nous ramène également à son existence dans l'histoire, son dévoilement donc, et également le fait qu'il est au-delà de tout sens de ce monde-là. Et une fois qu'il t'a dit ça, eh bien, Rabbeinu Yosef va te citer 23 versets avec Shem Havaya. Pour t'expliquer justement, regarde, la preuve que ce que je t'ai dit, ta 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 ta. Et donc, tu vois que tout le livre est basé sur une idée, 29 versets. Une idée, 32 versets. Une idée, vous avez compris l'idée. Ça va ? Et donc, lorsque on va étudier ce livre-là, eh bien, on va trouver que l'essentiel de Torah Kabbalah, parce que qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu Yosef Djikatilia? Eh bien, il prend les... Oui, bien sûr que Manitou en parle beaucoup. Mais encore une fois, c'est un livre de référence et c'est un livre de base pour commencer. C'est-à-dire, on ne peut pas faire sans. D'accord? Quelqu'un qui veut étudier la Kabbalah, il est obligé de passer par Sha'arei Ora. Il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, c'est donc un livre dans lequel il va expliquer quelle est l'influence des Shemot à Elohim, des noms que Dieu il utilise pour se dévoiler dans la Torah. Et après, donc, il met tous les versets pour expliquer d'où ils viennent et d'où il a pu ses dires. Et donc, ça veut dire que toute sa Kabbalah à lui est là pour nous expliquer comment Dieu se dévoile dans le monde. Et si on a bien étudié, et si vous avez compris les enseignements du Rav Ben Arosh, eh bien, c'est exactement ça, le sens de Torah Kabbalah, d'essayer de comprendre comment Dieu se dévoile dans le monde. C'est pas shoot, en fait, c'est plus que pas shoot. C'est-à-dire, c'est limpide. Comment Kadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde? Donc, Sha'arei Ora de Rabbeinu Yosef Djikatilia, on ne peut pas s'en passer. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut arriver à celui qui va être notre dernier notre dernière masterpiece aujourd'hui. Attends, est-ce que dans la yeshiva des Mekoubalim, yeshiva de Bethel, ils sont aussi d'accord avec le... Attends, je ne vois pas la suite. Attends deux secondes. Hein, de commencer avec ce livre. Alors, je ne sais pas pour la yeshiva des Mekoubalim Bethel, je ne peux pas parler en leur nom, mais je sais que j'avais demandé au Rav Naon, comme tu sais, énormément étudié là-bas, étudie toujours là-bas. Lui, oui, il est d'accord. Mais comment faisait-on avant le Mahari? Je ne comprends pas bien la question. Je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce que ça veut dire, comment faisait-on avant? On se débrouillait avant. C'est une question qui revient, tu peux la poser sur n'importe quel rabbin qui a donné un enseignement fondamental dans le judaïsme. Comment est-ce qu'on faisait avant? On se débrouillait avant, ce que je te dis. Comment on faisait pour comprendre la Torah avant Rashi? On la comprenait avec d'autres gens. Mais ce n'est pas anodin que Akadosh Baruch Hu, il envoie des personnages à certains moments de l'histoire. Il les envoie à certains moments de l'histoire parce que, un, c'est le moment de les envoyer. C'est-à-dire que c'est le moment où cet enseignement-là peut être entendu. Et des fois, il les envoie à un moment, mais leur influence n'est dévoilée que plus tard. C'est-à-dire, donc, comment est-ce qu'on faisait pour comprendre la Kabbalah avant le Mahari? Eh bien, on comprenait la Kabbalah. On comprenait la Kabbalah du Ramban, on comprenait la Kabbalah des Géonim, on comprenait la Kabbalah du Talmud. Mais c'était autre chose. Ici, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on arrive à percevoir le dévoilement divin dans le monde. Est-ce que, vous allez me dire, est-ce que ça a un lien? Parce que j'ai dit, Mahari de Katilia, c'est le XIIIe siècle. Mais son livre ne commence à être étudié qu'au XVe. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'au XVe siècle commence la Renaissance? C'est évident. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on parle de personnalité incroyable, okay, lorsqu'on parle d'enseignement incroyable, eh bien, je vous demande de faire un tout petit peu. Je vous demande de faire un tout petit peu de bien comprendre que ce n'est pas que au niveau du judaïsme. Vous l'avez bien compris. On ne parle pas que du judaïsme. Lorsque je parle du XVe siècle, de l'époque où Rabbi Yosef Jekatilia devient étudié, vous comprenez bien que c'est une époque où, en parallèle de tout ce qui est en train de se passer, il y a un bonhomme, par exemple, comme Léonard de Vinci, qui commence à bosser. C'est-à-dire, Léonard de Vinci, il naît en 1450, je crois, 51, 52. Donc, on est là. C'est-à-dire qu'on est dans une période où les grands esprits de l'humanité commencent à parler de comment est-ce que ce monde-là, dans lequel on vit, ne peut pas se suffire à lui-même. Je vous rappelle quand même que l'un des projets les plus ambitieux de Léonard de Vinci, c'est l'avion. Alors, il ne va pas réussir, mais Léonard de Vinci, pour lui, il faut que l'homme, il vole. Mais pas parce que c'est juste un kiff, parce qu'au niveau de la pensée, on s'envole là. Et donc, le fait qu'on a besoin à ce moment-là d'un rave qui vient nous expliquer comment est-ce que le transcendant peut être entendu ici, eh bien c'est maintenant que ça devient fondamental. Donc c'est exactement de cela dont on parle. Et c'est pour ça qu'il y a un autre livre qui est fondamental au niveau de la Kabbalah, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est les deux derniers d'aujourd'hui, Rabbi Yosef Jekatilia, qui va être connu à ce moment-là, et puis il y a un autre personnage qui lui, par contre, il est contemporain de son bouquin, c'est-à-dire que l'influence de son livre, c'est au moment où il est encore en vie. Il s'appelle Rabbeinu Yosef Albo. Albo. Il y avait Albator et puis il y a Albo. OK ? Rabbi Yosef Albo. Alors, Rabbi Yosef Albo, les amis, Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il est l'élève de celui avec lequel on a terminé la semaine dernière. Il est l'élève de Rabbeinu Chisdai Kreskas. OK ? Et je vous rappelle que Rabbeinu Chisdai nous avait écrit un livre extraordinaire qui s'appelait Or Hashem. Mais Rabbi Yosef Albo, lui, il va écrire un autre livre. Et c'est un livre qui est, comment te dire, qui n'est pas central, qui est une base pour ce qui est de comprendre qu'est-ce qu'on veut de Dieu. Et son livre, il s'appelle Sefer HaIkarim. Sefer HaIkarim. Littéralement, le livre des bases. Enfin non, le livre des points centraux. Et qu'est-ce que c'est que ces Ikarim ? Pour Rabbi Yosef Albo, le monde entier est basé, la Torah est basée sur trois piliers. Trois Ikarim. Que si l'un des trois s'effondre, le monde s'effondre. Quels sont ces trois piliers ? Et vous allez comprendre, quand on va les dire, que ces trois piliers, c'est uniquement Torah ta Kabbalah. Le premier, Metziut Hashem, l'existence du divin. Je comprends que Torah Taniglé, elle ne parle pas de ça. Elle ne peut pas parler de ça. Puisque Torah Taniglé, elle ne nous parle que des mitzvot. Donc c'est bien, les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui me parle de l'essence ? Alors, ce n'est pas vraiment l'essence, parce qu'on ne parle pas de l'essence du divin, mais on parle de l'essence de son dévoilement. Donc ça, c'est le Ikar Rishon. Ikar numéro 2, Sachar va'onesh. Alors, vous allez me dire, c'est pas shoot. Oui, mais Sachar va'onesh, ce n'est pas seulement tu fais bien, tu reçois bien, tu fais mal, tu reçois mal. Sachar va'onesh, d'après Rabbi Yosef Albo, c'est comprendre que si tu mets la main dans l'eau, elle est mouillée. Ah, tu vas me dire, ok, ben, je n'avais pas besoin de Rabbi Yosef Albo pour ça. Nahon, mais Zedvar Hashem. C'est-à-dire que chaque action entraîne une conséquence et que cette conséquence qui est marquée dans la réalité, dans le monde, Zedvar Hashem. En d'autres termes, Sacha Vaonesh pour Rabbi Yosef Albo, c'est comprendre que chaque élément de ce monde dévoile Dieu. Et enfin, le troisième Icar, le troisième point central pour Rabbeinu Yosef Albo, c'est Torah min haShamayim. Torah min haShamayim. Que la Torah, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Que sans le fait que la Torah, elle vienne du ciel, eh bien, tu es obligé d'ancrer cette Torah à l'intérieur de ce monde. Et donc, elle est manquante. L'essence de son dévoilement et son essence. Voilà, tout à fait. Tout à fait. En d'autres termes, Rabotai, nous dit Rabbeinu Yosef Albo, tant que tu n'as pas démontré que la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu, tu l'as limitée aux limites de ce monde. Et tant qu'elle est limitée aux limites de ce monde, eh bien, elle ne pourra t'apporter que ce que ce monde a t'apporté. Mais la connexion avec Mishé Amar Vaya Olam, la connexion avec celui qui a dit et le monde a été, eh bien, n'est pas possible. D'accord ? Donc, ces deux livres-là, que sont d'un côté Sefer HaIkarim et de l'autre côté Sha'arei Ora, sont les livres qui vont nous faire rentrer dans la Renaissance avec cette compréhension que maintenant nous n'avons pas d'autre choix que de nous attacher à comprendre comment Dieu se dévoile et par quel intermédiaire il se dévoile. On est à deux pas de la Torah du Harizal, ça viendra bientôt, on va bientôt arriver au Hari, mais on y est. C'est-à-dire que le monde a changé. Le monde a changé, il faut bien comprendre. La Renaissance, ce n'est pas Stam qu'on a donné ce nom-là à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est une époque où la marshava, où la pensée humaine s'élève. il va falloir donc également des chachamim chez nous qui vont pouvoir faire face à cette élévation-là. À partir du XVe siècle, tu ne peux plus avoir de rabbin, et je vais dire une bêtise, mais ce n'est pas une bêtise, jusqu'au XXe siècle, parce que malheureusement, au XXe siècle, on va tout d'un coup retrouver des rabbins qui retombent dans ces travers-là, mais je dis à partir du XVe siècle, tu ne peux plus avoir de rabbin qui se limite aux connaissances du judaïsme. Tous les autres rabbins qui veulent avoir une influence vont avoir aussi une connaissance accrue de tous les domaines, de la philosophie, de la science, de tout ce que vous voulez. C'était comme ça à l'époque du Talmud. Ça n'a plus été à l'époque de tous les Rishonim. Il y avait en Espagne, on a vu certaines personnes, justement les Mekoubalim, qui touchaient à tout, mais il y avait plein d'autres rabbins qui ne touchaient pas à tout. Et malheureusement, on va voir que au XIXe siècle, eh ben, ça va revenir, et au XXe siècle également. Heureusement, pas tous. Ça va ? Est-ce qu'on peut avoir la liste des rabbins qui marquent chaque époque ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir la liste de tout ce que nous, on est en train de faire ? Parce que nous, on s'occupe que des rabbins de Kabbalah. Nous, on ne s'occupe pas des rabbins de Halakha. Parce que là on n'est pas couché, là. C'est-à-dire que si je dois faire aussi l'historique de Torah à Halakha, ah bah ouais, mais là, il y a plein de gens qu'on n'a pas évoqués. C'est-à-dire, donc oui, je vous ai dit déjà la semaine dernière qu'on fera un récap, et Pezrat Hashem peut-être même écrit, de tout ce qu'on a vu dans notre cours, mais ça viendra à la fin. C'est-à-dire Tov, eh bien, les amis, je vous laisse poser vos questions. À vous de jouer sur les questions.
Oh, bah, question à Rav de Yaakov Zerbib.
C'est parti.
Bien, Rav, ma question, c'est justement, vous avez parlé de Sefer HaYikarim, mais j'ai dit, malgré tout, c'est pas un livre de Kabbalah, le Sefer HaYikarim. Pourtant, même si c'est des idées qui ont leur source dans la Kabbalah, et ben, la terminologie, j'ai envie de dire, c'est pas de la Kabbalah. Quoi. C'est un livre de Emouna.
Je pensais que tu allais me dire, c'est un livre de philosophie.
Non. Non, ça veut dire que c'est un livre qui...
T'aurais pu. Maintenant, ton argument pour me dire que ce n'est pas un livre de Kabbalah, c'est un argument qui est à cause du Harizal.
C'est possible.
Parce que tu me dis, c'est pas un livre de Kabbalah. La preuve, la terminologie n'est pas une terminologie de Kabbalah. Oui, mais quand tu me dis ça, c'est parce qu'il ne parle pas de Sfirot, c'est parce qu'il ne parle pas de Yichudim, c'est parce qu'il ne parle pas... C'est le langage-là qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde de la Kabbalah. Sauf que tout ce langage-là, c'est un nouveau langage qui va être mis en place, les spirotes, ce que tu veux, par le Hari, par la Torah, la Kabbalah du Hari. En vérité, quand tu regardes le Ramban, ce n'est pas non plus un langage de Kabbalah.
Justement, mais moi, justement, tout à l'heure, je parlais de la Yeshiva de Bethel.
Ouais.
J'ai compris que dans la Yeshiva de Bethel, oui, ils appellent ça tout ça, que ce soit la Torah de Ramban, de la Hassidut, de Rav Kook, tout ça, des targumim, des traductions de la Kabbale. Et qu'en vrai, la Kabbale bruto, c'est ce que, plus ou moins ce qu'il y avait le Hari. Et que le Ramban, s'il n'en parle pas, c'est parce que dans ses livres, mais en réalité, lui aussi, il touchait que à la Kabbale brute. C'est ce que j'ai compris.
Donc on dit la même chose. C'est-à-dire que le Hari, il a inventé une Safa. OK, pour parler de tout ça. Et les Chachamim qui ne sont pas le Hari, qui sont avant le Hari, ils n'en parlaient pas avec cette Safa-là. C'est-à-dire que le Ramban, c'est vrai que c'est un Mekoubal. Il n'y a pas de débat. Seulement, il utilise un langage qui est extrêmement facile à comprendre. En vérité, quand tu prends le Hari, prenons un exemple, OK ? Et que tu prends le Hari et que tu vois dans le Hari la notion de Nukve ou la notion de Ima, Ve Abba, ce sont des notions qui sont extrêmement particulières, mais en fait, quand tu les as traduites, c'est des notions que tous les rabbins utilisent. Seulement, ils ne les utilisent pas avec ces noms-là. Ils les utilisent avec leur explication. Donc, dans le Sefer HaYikarim, en fait, il parle de tout ce que l'Hari va dire en mots particuliers, mais lui, il n'utilise pas ces mots-là parce qu'il ne les connaît pas. Donc, il utilise simplement leur explication, comment toi, tu aurais expliqué les Moussagim de Kabbalah pour la Tria Léoumit, pour la résurrection nationale. Arrête, c'est que des Mahamarim du Hari et du Zohar. comment le Rav Kook, il va les traduire ? Il les traduit avec un langage intellectuel du 19e siècle. Mais en fait, c'est exactement ça. Seulement, il a utilisé un langage qui est compréhensible pour son époque.
Justement, mais eux, ils disent, dans la guichette, moi, de ce que j'ai entendu parler de ceux qui étudient là-bas, ils disent qu'ils sont contre en fait, cette étude, j'ai envie de dire, dans le sens où, pour eux, ça t'empêche après de l'arvote, de vivre toi-même ces moussagim, vous voyez, dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est au-delà d'un targoum, donc d'une traduction,
ils sont bien plus légitimes que moi pour le dire, mais il n'y a aucun problème. Ils peuvent te dire, eux, ils te disent, moi, quand j'étudie la Kabbalah, c'est qu'eux qui devaient à Harry. Mais ça, non. Et quoi, quand tu étudies le Ramchal, c'est l'eau, Kabbalah. Et quand tu étudies le Rav Kook dans, par exemple, Rechmilin, c'est l'eau, Kabbalah. C'est quand, Kabbalah. Aval, c'est pas la Kabbalah du Harry. C'est-à-dire, j'attire ton attention par exemple sur la Chassidut Chabad. C'est-à-dire, Chassidut Chabad, elle n'est pas basée sur Kabbalah Tahari, elle est basée sur Kabbalah Taramak. Bon, d'accord, mais c'est pas obligé d'être tous basés sur le Hari. Ça, on va étudier, c'est quoi la différence entre le Ramak, le Hari. Mais tout ça pour dire que le fait que la terminologie ne soit pas forcément la terminologie compliquée, j'ai envie de te dire, de la Torah du Harizal, eh bien, ne veut pas dire que c'est pas de la Kabbalah. C'est juste que c'est une autre façon de l'enseigner. Et tu vois bien qu'avant le Hari, personne ne parlait comme le Hari. Et ça n'a pas empêché d'être quand même la Kabbalah. C'est-à-dire que j'entends ce que tu dis et je sais que dans certains milieux, on va te dire entre le Zohar et le Hari, il y a Shum Davar. Ah ben, on a vu que ça fait quand même 1000 ans, entre, presque 1200 ans, 1300 ans, entre le Zohar et le Hari. Et oui, il y a eu des Bekoubalim. C'est ainsi que procèdent aussi les philosophes avec un langage et des concepts qui s'habillent différemment. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça que les êtres humains, ils font. Elle mal à la saute. Est-ce que l'on peut avoir les devoirs de Zahon Adjé ? Ok. Oui.
Question de Meira. Meira Malka. Votre micro est éteint, Meira.
Vous m'entendez là, oui ?
Oui.
Je me demande, est-ce que tout ce que vous venez de dire, c'est accepté par tous les milieux aujourd'hui, la Kabbalah, parce qu'ils apprennent bien moins la Kabbalah dans les milieux chassidiques ou haridim, ou c'est seulement quelque chose qui se développe lentement ?
Alors d'abord, comme toujours dans le judaïsme, non, c'est pas accepté partout, évidemment, sinon ce serait trop facile. Mais on va dire comme ça, dans les milieux chassidiques, oui, on accepte la Kabbalah, sauf qu'on ne l'étudie pas forcément en profondeur, mais on l'accepte. Maintenant, dans les milieux litaïs, c'est vrai qu'il y a du mal avec la Kabbalah. Zenachon. Mais ils ont tort.
Ils la rejettent, ils n'y croient pas, ou qu'est-ce que c'est ?
Il n'y a pas vraiment un rejet. C'est-à-dire qu'on n'est plus au 19e siècle où il y a vraiment un rejet de la Kabbalah à cette époque-là. Là, aujourd'hui, on n'est pas en mode rejet, mais on est en mode non, mais laisse tomber. Oui, le Rav Kanievski, ouais, c'est un Mekoubal. Bon, d'accord, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la Gemouré.
Oui, c'est comme avec Moren Vourim, par exemple, de Rambam.
Ah non, c'est pas pour ça. Moren Vourim, il a été énormément rejeté par certains parce que, il citait les philosophes non-juifs qu'il avait précédés, que ce soit Aristote ou Abou Nasser al-Farabi, et parce que il prenait que les juifs aillent travailler. Et ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Oui, Ciné 613.
Ah, bonjour. Bonjour, Raphison, ça va ? J'avais une question, vous parliez du Rav Kamenevski, justement, qui n'est malheureusement plus de ce monde. Et alors, c'est qui aujourd'hui ? Quels sont les grands maîtres de la Kabbalah, les grands référents de la Kabbalah à notre époque, quoi ?
Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si le Rav Kamenevski était le grand référent de la Kabbalah. Je ne sais pas. Tu sais que... on a vite fait de former des images chez certains. Il suffit d'avoir un bon public relation et tu peux former des Gdolé Ador en 5 minutes. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Rav Kanievski était le représentant de la Kabbalah.
Non, je ne dis pas ça. Est-ce que, comme tu as évoqué le Rav Kanievski, je me demandais.
Non. Je ne sais pas qui est ou qui était. Je vais te dire que là, tu as le Rav Cherki et le Rav Ben Arosh qui sont des ils ne le disent pas, ils ne se présentent pas comme ça. Enfin, Rav Cherki, ou Sohe, Beolam Kabbalah, Chaval al-Azman, tu vois. Maintenant, je ne sais pas qui est aujourd'hui le patron, mais en vérité, je ne sais pas si on sait jamais au moment des événements qui est le patron. L'Oder.
Todaraba.
Ok, ça.
Je peux poser une question ?
Mais oui.
Et dans la Gemara, il y a beaucoup de textes sur la halakha, il y a beaucoup de agadot, il y a beaucoup de commentaires. Il n'y a pas de Kabbalah. Est-ce qu'on l'a trouvé ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que c'est Merumaz ? Ou est-ce que c'était seulement pour les grands de l'époque ?
Et j'ai envie de vous répondre que j'ai dû donc très très mal faire mon travail, puisque nous avons évoqué cela lorsqu'on a fait les cours sur l'époque de la Gemara, où on a expliqué qu'évidemment qu'il y a une Kabbalah à l'époque de la Gemara, ça s'appelle la Haggadah. Tous les textes de Haggadah, c'est les textes de Kabbalah.
C'est des textes de Kabbalah. Et qui auraient été écrits quand ?
Mais comment ça, qui ont été écrits à l'époque de la Gemara ?
De la Gemara. C'est-à-dire, mais ça a été analysé dans un sens kabbalique ?
Ben, oui, c'est-à-dire que la Haggadah...
Non, c'est... mais il y a des gens qui ont travaillé sur ces Haggadahs uniquement dans le sens kabbaliste. Parce que c'est pas évident, puisqu'on dit que les Bachurei Yeshiva, ils ne savent pas la Kabbalah. Mais ils étudient le Talmud toute la journée.
Oui, mais d'abord, premièrement, aujourd'hui, lorsque vous étudiez dans une bonne Yeshiva litaïte comme qui se respecte, et qu'on arrive au Haggadot, en général, on les saute. Voilà, et si on les saute, donc ça veut dire qu'ils ne les étudient pas. Et si on ne les saute pas, on les étudie comme des histoires.
D'enfants,
mais en tout cas. Des illustrations. On ne veut pas y voir là-bas des enseignements extrêmement profonds. C'est une erreur.
Et comment on est arrivé à dire que c'était de la Kabbalah ?
Parce que la Haggadah, c'est ce qu'on appelle d'ivrei Kabbalah. Les Haggadot du Talmud, c'est les explications des versets de la Torah. Et c'est ce qu'on appelle d'ivrei Kabbalah dans la Gemara, dans Masechet Baba Kama.
Arav, une dernière question de Aaron.
Oui ?
Bonjour, Rav. Qu'est-ce qu'il faut penser des gens qui se réclament du Balasoulam, les Bnei Barour, je crois, ou quelque chose comme ça.
Les Bnei Barour ?
Oui. Et, je crois que le Balasoulam, il avait deux fils.
Oui, tout
à fait. Et il y a un Rav qui s'appelait le Rav, je ne sais pas, Michael Littman, ou qui a un mouvement de Kabbalah mondial avec des traductions, surtout le net.
Je sais qu'il y a, il y a un rave qui s'appelle le rave Gottlieb.
Oui, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut penser de. Et non, grande diffusion de la Kabbalah sur Kabbalah, Internet non. Avec toutes les traductions, toutes les livres, toutes les langues.
Non, attendez, deux secondes, il y a deux choses différentes. Le Baal HaSoulam, c'est, on y arrivera à la fin de notre étude, parce que le Baal HaSoulam, il meurt en 1954, donc c'est, on n'y est pas encore. Mais le Baal HaSoulam, c'est Vadaï. Kabbalah, la Méhadrine de la Méhadrine. Et effectivement, le Baal HaSoulam, il avait deux enfants qui ont continué son œuvre. L'aîné s'appelait le Rav. Non, Yehuda Leib, c'est le Baal HaSoulam. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il avait deux, dont un des deux, c'était un des maîtres de Manitou. C'est-à-dire que Manitou, il a étudié chez un des enfants du Baal HaSoulam. Il y a aujourd'hui l'élève qui reprend la Torah du Baal HaSoulam, c'est le Rav Gottlieb. Le Rav qui est, il s'appelle Divrei Shalom, je crois, ou Birkat Shalom, Birkat Shalom, Baal HaBirkat Shalom. Bekitsour, qu'est-ce que j'en pense c'est d'agrément. Pas le temps.
Rapidement, Todaraba, il est 10h.
Chazak bro.
Merci beaucoup.